Club des Chineurs.
Bonjour à toutes et à tous, c'est le Club des Chineurs, la deuxième émission de la saison 2023-2024. On va parler de vinyle dans cette émission, comme dans toutes les précédentes. Je suis bien accompagné ce mois-ci, puisque à mes côtés, j'ai DJ Pirouli. Salut Fred, tu vas bien?
Salut, bonjour.
Et j'ai l'honneur d'avoir comme invité ce mois-ci Stan Cuesta. Salut Stan.
Bonjour.
Stan, tu as participé au salon du vinyle que j'ai organisé à Agde en 2022. Si tu viens dans cette émission, c'est avant tout pour parler de ton dernier bouquin qui vient de sortir. C'est ça? Ça vient de sortir ou ça va
sortir? Il est sorti le jeudi 12 octobre, oui, sur okay. Jimi Hendrix.
Sur Jimi Hendrix. Ce n'est pas une biographie classique d'un artiste, c'est
même pas une biographie du tout, c'est-à-dire que je raconte pas sa vie, ça a été tellement fait ailleurs. Non, c'est une discographie complète commentée, comme le font les éditions du Layer. J'ai déjà fait un Lou Reed Velvet Underground dans cette collection et un Beatles, où j'avais mis tous les disques de tout le monde, c'est-à-dire Beatles solo, Beatles ensemble, etc. Et là, pour Hendrix, j'ai fait la même chose. D'ailleurs, il est énorme. Je m'aperçois qu'il est plus gros que le Beatles. C'était assez surprenant.
Très volumineux.
Alors, c'est drôle parce que Hendrix, effectivement, tout le monde me fait la remarque, a sorti 3 albums de son vivant. Et là, il y en a plus de 100.
Plus 1 live, je crois.
Enfin, 3 albums studio et un live, effectivement. Et là, il y en a plus de 100 parce que j'ai mis tous les disques paru après sa mort, ce qui est d'ailleurs c'était le premier quasiment artiste, en tout cas dans le rock, à avoir une production aussi pléthorique après sa mort. On a beaucoup exploité sa discographie, tout ce qu'il avait fait en studio, et même beaucoup d'arnaques. Donc je mets tous les disques qui sont des arnaques, ça m'a beaucoup amusé.
Des pirates, tu veux dire? Des
non, pas des pirates, des trucs où ils mettent en gros la photo de Hendrix à l'île de Wight, alors qu'en fait c'est des morceaux sur lesquels il est à peine à la guitare rythmique pour accompagner quelqu'un, qui ont été faits 6 ans avant, et le mec qui était le chanteur principal n'apparaît quasiment pas, et on vend ça comme un disque de Hendrix. Il y en a eu beaucoup.
Il y a beaucoup de sessions qui sont sorties, oui, après sa mort.
Il y a même des disques sur lesquels il ne joue pas, et où comme il avait joué avec l'artiste en question, ils mettent 2 titres sur lesquels il y a Hendrix, ils en mettent 10 autres, et ils font réenregistrer une guitare par un gars qui joue à la Hendrix. Donc ça, c'est assez formidable. Donc c'est très difficile à trier le bon grain de l'ivraie, mais c'est assez amusant. Et puis j'ai aussi, ce qui m'a beaucoup amusé, mis plein de disques qui étaient en rapport avec Hendrix, soit qu'il avait produit, qui sont des disques qu'on cite toujours dans sa discographie ou dans sa biographie, mais qu'on n'écoute jamais. Les groupes comme Air Apparent, enfin des trucs assez obscurs. Les groupes de ces musiciens, c'est-à-dire le Buddy Miles Express, par exemple, qui est revenu vachement à la mode auprès des amateurs de funk, parce que c'est vraiment des albums très très groove. Les albums de son bassiste, Noel Redding, etc. Voilà, tout ce qui tourne autour de Jimi Hendrix.
Et tout ce qui a peut-être été enregistré également dans les studios... du moins, à l'époque de son vivant, dans les studios Electric Lady Land, c'est ça?
Ouais, non, alors, de son vivant, il y en a eu très peu, puisqu'en fait, il est mort peu de temps après l'ouverture du studio. Donc, le studio a été énormément exploité après la mort de Hendrix. Et il existe toujours.
Il est toujours, ouais. Ouais. T'as dû énormément travailler pour écrire un bouquin comme ça, se pencher sur la discographie.
50 ans. À peu près, depuis que j'ai commencé à écouter Hendrix. Voilà.
Est-ce que tu t'es aidé de Discogs, qui est la bible des collectionneurs de disques?
Oui et non, c'est-à-dire que je me méfie beaucoup d'Internet, puisque je sais par mon métier qu'il y a beaucoup d'erreurs sur à la fois Wikipédia, comme on disait, et sur Discogs aussi. Discogs, c'est un peu plus pointu. Je m'en suis servi quand je ne pouvais pas avoir accès aux disques physiques, c'est-à-dire des trucs vraiment très pointus, très rares que j'arrivais pas à trouver. Je vais sur Discogs et en général, avec un peu de chance, les notes de pochette sont reproduites. C'est ça qui est intéressant sur Discogs, que tu n'as pas sur toutes les
plateformes. Elles sont scannées par les personnes qui collaborent au site. C'est un site collaboratif open source, on pourrait dire. En parlant de support physique, de disques physiques, on va peut-être commencer justement par écouter. Ce que tu as ramené de Jimi Hendrix, décédé en septembre 70, je crois.
Alors justement, c'est le premier album que j'ai entendu, donc j'ai mis le premier morceau qui s'appelle Freedom, c'est Cry of Love. C'est le premier album que j'ai entendu quand j'étais vraiment tout petit, et Jimi Hendrix était déjà mort. Donc en fait, la première phrase du livre, c'est « J'ai découvert Jimi Hendrix en 1971, je sais, ça craint ».
You got my pride hanging out of my bed.
so I bite my lip. Even mess with my children. And you're screaming at my wife. Get off of my back. If you wanna get out of here alive. Freedom. That's what I want now. Drugstore ma'am, what I don't need it now. I'm just trying to slam it out of her hand. Freedom, so I can live. Freedom, so I can give. Freedom, freedom, yeah. Freedom, that's what I need.
Mixed up confusion, man, and it's a killing me. There's just too many people, and they're all too hard to please. Well, my head's in. My poor feet don't ever stop.
C'est le Club des Chineurs sur Radio Pays des Rois RPH Sud. On vient d'écouter un Dylan que tu avais en concert cet été, Stan.
Oui, alors effectivement, je l'ai vu à Carcassonne. C'était un super concert parce que le gars a quand même plus de 80 ans et il était vraiment incroyable. Mais alors, le grand public, disons, était déçu parce qu'il ne jouait pas ses tubes. Il ne joue que son dernier album et des morceaux assez obscurs de ses discographies. Celui-là est carrément très obscur. Ce qu'on vient d'écouter, c'était Mixed Up Confusion et c'est vraiment intéressant. Alors, comme c'est la règle du jeu, je te dis que je l'ai acheté il n'y a pas longtemps au comptoir du disque à Montpellier, qui est mon fournisseur préféré, n'est-ce pas? Pas cher en plus. Et ce 45 tours qui n'est sur aucun album est intéressant parce que c'est la première séance qu'a fait Bob Dylan en 62 chez Columbia, au studio Columbia, quand il a signé avec cette maison de disques. Et c'est pas du tout du folk, tu vois. Il était avec un groupe électrique, rock, etc. Donc la première chose qu'il a fait, c'est du rock. Quand on dit toujours Dylan était un chanteur folk qui est ensuite passé au rock, c'est faux en fait. Il a commencé par faire du rock et ensuite il est passé au folk.
Merci de rétablir la vérité sur Bob Dylan que je n'ai jamais vu sur scène. Tu l'as vu, Fred ?
Oui, oui, je travaillais d'ailleurs en tant que Roddy. Là, on rangeait le matos des Rolling Stones à Gramont en 95. Et il y avait eu les Black Crowes qui avaient donné un concert mémorable aussi. Et Bob Dylan, donc c'était une grosse, grosse soirée. Et un très bon concert des Stones également. Donc c'était à l'espace Gramont en 1995.
Les plus jeunes auditeurs n'étaient pas nés. Et moi, j'étais jeune en 95. Stan, qu'est-ce que tu nous as ramené?
La suite est liée, puisque c'est un morceau de John Baez. Et là, c'est aussi parce que j'ai écrit un bouquin sur John Baez dans une collection que je dirige chez Gallimard qui s'appelle Les Indociles. Je commande des bouquins et j'en écris moi-même. John Baez, c'était quelqu'un que je voulais faire depuis longtemps. Bon, je l'ai rencontré, j'ai pas mal bossé dessus. Et voilà, ce que je voulais dire intéressant sur le disque qu'on va écouter, c'est aussi un 45 tours qui n'est sur aucun album. Et c'est un 45 tours de 66, je crois, qui s'appelle Pack Up Your Sorrows. Et c'est du folk rock, comme le faisait Dylan à l'époque de Like a Rolling Stone, ce genre de morceaux. Et quand on voit John Baez avec son image un peu de chanteuse folk, avec sa guitare sèche, là, il y avait un essai de faire un album rock qui n'a malheureusement pas été terminé. Et bon, c'est l'époque aussi où il était avec Dylan. Tu verras, le début avec l'orgue, c'est très très Dylan. Et ce qui est marrant, c'est que c'est pas produit par Dylan, mais par le beau-frère de John Baez, qui s'appelait Richard Farina, qui est un mec qui est mort très jeune malheureusement, qui était très doué, et qui était le meilleur ami de Dylan. Voilà, c'est John Baez, s'appelle Pack Up Your Sorrows.
You come back. must face yourself and you must say, I remember better days. Don't you cry, 'cause she is gone. She is only moving on, chasing mirrors through a haze.
En vinyle sur le Club des Chineurs, sur Radio Pays d'Hérault, RPH, sur différentes fréquences, 89, 96, 7, 102.9, qu'on se trouve à Lodève, Gignac, Pézenas et ou Clermont-l'Hérault dans le désordre, et puis bien sûr en ligne
sur rphfm.org. On vient d'écouter Graham Nash, le premier album solo de Graham Nash, et tu nous disais, Stan, en antenne, que tu avais interviewé son compère David Crosby, et tu nous disais aussi, je te pose deux questions à la fois comme ouais. Ça tu vas pouvoir développer, que tu avais racheté ce disque parce que comme beaucoup de gens tu l'avais vendu dans les années, je sais pas, 80, 90 peut-être.
Oui, alors
tu avais vendu toute ta collection.
Effectivement, donc la première question, je travaille de nouveau pour Rock et Folk pas mal, donc ça me permet de faire des interviews de gens que j'aime bien. Donc heureusement, j'ai interviewé David Crosby.
Je l'avais lu d'ailleurs, cette interview.
C'était à l'occasion de la ressortie du Déjà Vu, l'album de Crosby, Stills, Nash & Young, avec plein de bonus, une sorte de très beau coffret et tout. Non, il était très fier de ça d'ailleurs, c'était chouette. Et puis Graham Nash, bah, je l'ai mis aussi parce que je l'ai vu en concert il y a deux semaines au Casino de Paris et c'était fabuleux. C'est-à-dire que Le mec a aussi 82 ans, je crois. J'en profite, je vais voir. Je l'avais jamais vu sur scène. Graham Nash, c'est un peu le gars qu'on oublie toujours dans Crosby, Stills, Nash & Young. C'est celui qui est le moins charismatique, le moins intéressant et un peu gentillet, l'anglais de la bande et tout. Et en fait, c'est un gars d'un talent incroyable. C'est lui qui a écrit tous les tubes du groupe. C'est-à-dire que de Our House, Marrakech Express, Teach Your Children, Chicago, tout ça, c'est lui qui a écrit Just a Song Before I Go, qui a été la chanson la plus successful, je trouve plus mes mots, de Crosby, Stills, Nash. Voilà, ça c'était son premier album solo. Alors effectivement que j'ai racheté. Le truc c'est que je passe ma vie à racheter des disques que j'ai revendus, parfois plusieurs fois, parce que tout simplement j'ai déménagé, j'ai eu besoin d'argent. Voilà, si je n'avais jamais revendu, j'aurais une collection magnifique. Elle est juste minable maintenant. Mais ce qui est formidable, ce que je te disais aussi, qui est assez drôle et à l'image de mon sens des affaires, c'est que quand je suis arrivé à Montpellier, j'ai tout revendu, quasiment ma collection au comptoir du disque, en lot, quoi, c'est-à-dire à 1 ou 2 euros le disque. Et aujourd'hui, dès que j'ai un peu de sous, je rachète des disques qui sont les miens, donc mes propres disques, mais 10 fois plus chers, évidemment.
Tu n'as pas revendu tes vinyles pour acheter des CD ?
Non.
Comme beaucoup.
Non, j'ai fait l'erreur.
90,
alors,
80.
Le truc, c'est que dans les années 90, à Rock et Folk, je m'occupais de la rubrique réédition, qui était une rubrique magnifique parce que je recevais tous les mois tous les coffrets, donc Hendrix justement, Crosby, enfin The Who, plus tous les albums deluxe, tout ce qui était réédité avec des bonus, etc. Et à un moment, pour des raisons de place, j'ai fait l'erreur que tout le monde a faite, c'est-à-dire que je me suis dit, je garde les CD, je vends les vinyles, quoi. Donc j'ai effectivement vendu tous les vinyles que j'avais en double avec tous les CD que je recevais, ce qui était énorme. Bon, parce que tu vis avec quelqu'un en général qui en a marre d'avoir des disques partout, ouais, etc. Voilà. Après, j'ai quitté Paris pour Montpellier, donc là, ça a été la catastrophe. Il a fallu que j'avais des cartons dans tous les sens, qui étaient dans des vides-greniers, chez des potes, dans des studios. Enfin, c'était une horreur.
Tu n'es pas le premier à dire ça dans cette émission. Ouais. Qui parle du vinyle, et beaucoup de gens de ton âge ont vendu leur collection dans les années 80-90 et le regrettent énormément aujourd'hui et se reconstituent une collection malheureusement.
Je trouve ça marrant, je trouve ça amusant parce que en fait tu sais lesquels t'as envie de racheter, donc tu te retrouves à dire bah celui-là était vraiment fondamental. Ce qui est drôle, c'est que j'ai fait ça avec les instruments de musique aussi. Donc avec des prix beaucoup plus élevés, donc j'ai passé ma vie à revendre des magnétos, des guitares, des basses, des orgues. J'ai même eu un mélotron qui est un instrument mythique, je ne sais pas si vous savez ce que c'est.
Oui.
Qui est un truc énorme qui était évidemment intransportable, que j'ai été vendre en Italie. Enfin bon, c'est ma vie est faite de trajets pour aller vendre et racheter des trucs, quoi. Voilà.
C'est un genre
et
d'orgue.
Et en perdant de l'argent au bout du compte, évidemment.
C'est un genre d'orgue, le mélotron.
Ah, c'est pire que ça. C'est l'ancêtre du sampler. Chaque note est une note enregistrée, mais comme il n'y avait pas d'électronique à l'époque, elle est enregistrée sur une bande magnétique qui défile, qui ne fait que 7 ou 8 secondes. Donc à chaque fois que tu appuies sur une touche, il y a une bande magnétique qui défile.
Je vois, qui joue,
par exemple, le son de, soit de cordes de Nights in White Satin ou de In the Court of the Crimson King, soit le son de flûte de Strawberry Fields Forever. C'est les exemples les plus connus en général qu'on comprend. Donc c'était un instrument magnifique dont je me suis pas tant servi que ça et que je regrette d'avoir vendu, évidemment.
En parlant de Strawberry Fields Forever, non, tu n'as pas ramené de Beatles. Qu'est-ce que tu as ramené d'autre en vinyle?
Alors, quel est le prochain? Ah oui, alors on a fait un saut dans le temps, là.
Juste une dernière question. T'as combien de disques aujourd'hui?
Je sais pas, j'ai pas compté.
Quand
on aime, on ne compte pas, mais j'en ai très peu, vraiment quelques centaines, quoi. C'est pas grand chose.
Bah, c'est déjà pas mal, hein.
Et oui, bien sûr, ouais. Et donc ce que je voulais dire aussi, c'est que j'achète souvent des disques en fonction de ce que je vais faire comme article ou comme livre. Ce qui fait que, au bout du compte, comme c'est très mal payé, je perds de l'argent quand j'écris un bouquin ou quand j'écris un article. Donc l'exemple suivant est frappant, c'est Lily Drop, qui est un groupe français que j'aimais beaucoup des années fin 70, début 80, même époque que Téléphone, c'était même des amis de Téléphone, et qui est un groupe qui a fait 2 albums à l'époque et qui n'ont jamais été réédités jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a juste attendu 40 ans pour rééditer les albums de Lily Drop. Le chanteur Olive est décédé du sida.
Ouais, il y a peu, non?
Non, il est au début des années 2000. Et les deux, par contre, j'ai interviewé les deux survivantes, qui était une section rythmique féminine, ce qui était assez rare à l'époque. La batteuse s'appelle Violon et la bassiste s'appelait Corinne, mais en fait a fait ensuite carrière sous le nom de Enzo. Voilà. Et donc j'ai fait un article de 4 pages dans Rock & Folk, donc c'était assez chouette, et je vous passe le 45 tours, le premier disque de Lil Drop qui a fait leur succès, qui s'appelle Sur Ma Mob, et qui est un morceau superbe.
Thank you. accablé. Il y a des jours là, pas le moral. Des jours où tout va mal. Suzette, c'est la minette qui s'en va au lycée. Les mieux, j'ai lis sa mobilette. Pétrolette. Oh, il a l'air drôlement fier. Et sur sa mob, il en jette. Quand à Jojo, c'est le métallo. Le soir, après son boulot, ah, ah, il a sick sa bécane. Ah, ah. Il va draguer les dames dans son lit. Sur ma mob, je suis bien. Je suis bien et je chante. Maman, je suis bien. Et ces connes de bagnole sont folles de rage. Allez, tu danses.
Je double.
Vous êtes toujours dans le club des chineurs sur Radio Pays des Héros et RPH Sud. DJ René nous a rejoint.
Yeah.
Ça va?
Un
depuis tout à l'heure.
Sur Hendrix, je suis obligé de me suis jeté dans le studio.
Là. Oui, 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 parce que Stan, notre invité, nous a ramené son dernier bouquin aux éditions du Layer, un magnifique bouquin sur Jimi Hendrix dont on reparlera à la fin de l'émission. Là, on vient d'écouter Lily Drop.
Ouais.
Et les Liminianias, accompagnés de Pascal Comelade, qui sortent un nouvel album là très prochainement. Je crois que tu as interviewé Pascal voilà. Comelade là ces
hier,
derniers jours.
Hier, j'ai vu les Liminages. J'étais chez eux à Cabestany dans leur studio, maison. Donc c'est assez incroyable. Avec Comelade qui est venu aussi parce que c'est vraiment un disque. Ça s'appelle en fait Lionel Liminiana, Marie Liminiana, Pascal Comelade. C'est-à-dire c'est leurs trois noms à égalité. Et c'est la deuxième fois qu'ils font ça. Donc l'album s'appelle Boom Boom et sortira en novembre. Donc c'est pour ça que j'ai interviewé
avec
pour
un canevas en pochette.
Ouais, de la fille de ouais. De Pascal et Claudia Comelade qui fait du canevas. Et qu'est-ce que je veux dire? Oui, je les interviewais pour un article donc apparaître dans le prochain Rock et Folk 4 pages hein, parce que Rock et Folk soutient beaucoup à la fois Comelade et les Liminianas. L'album est super, mais je pouvais pas malheureusement en passer un extrait puisqu'il n'est pas encore sorti. Mais à la place, je vous avais apporté le précédent en fait qu'ils avaient fait déjà tous les trois, qui s'appelle Traité de guitares électro... Je ne sais plus exactement comment ça s'appelle à la fin. C'est comme là, tu trouves toujours des titres incroyables ouais, pour ses albums, ouais. Pour ses chansons, etc. Et là, c'est marrant. Ça, donc ça, c'était sorti en 2017, je crois. C'était la première fois qu'ils collaboraient sur un album entier. Et c'était une reprise de Why Are We Sleeping de Kevin Ayers qui était sur le premier album de Soft Machine, voilà, qui est une des grandes influences à la fois de Comelade et Lily Minianas.
En parlant de Soft Machine, j'ai récemment chiné un double album de Kevin Ayers. En fait, ce sont deux albums réunis. J'ai oublié les noms des albums parce que c'est des noms à dormir debout.
Whatever She Brings, She Swallows. Voilà, oui, bien sûr.
Voilà.
C'était quelque chose que...
Banana Moore.
C'est pas les premiers, mais oui. Les maisons de disques faisaient beaucoup ça. Ils avaient fait ça pour les deux albums solo de Syd Barrett aussi, rassemblés en un seul album. C'était un truc...
Particulièrement en France, j'ai l'impression.
Oui, oui, c'était les maisons de disques françaises. C'était EMI, beaucoup, qui faisaient ça. Enfin, Pathé Marconi, comme on disait à l'époque, oui.
Fred, tu avais ramené toi-même ici dans cette émission un disque de Pascal Comelade. Il revient beaucoup Pascal Comelade dans le club des chineurs. Je ne sais pas pourquoi.
Bah, c'est typiquement. Ouais, ouais.
Il sort un album tous les trois mois en même temps.
Ouais.
Donc,
ouais, c'est vrai. C'est
il
vrai.
Y a ça et puis c'est typiquement il reprend des titres de différentes époques, des années 60, des années 70. Donc forcément il y a des allers-retours qui réalise lui-même pour nous quoi. Donc c'est notamment avec le Russian Roulette, c'est la reprise des Lords of The New Church ou d'autres reprises, hein, parce que bon, on le sait, il est influencé aussi bien par le MC5 que Eric Satie.
Ouais. Le premier morceau qu'ils ont enregistré avec les Liminianas, c'était une reprise de Rambling Rose du MC5, mais il en fait beaucoup. Sur le nouvel album, il n'y a pas de reprise du tout, ils sont attelés à faire que des morceaux originaux. Par contre, lui-même est un fan absolu, les deux d'ailleurs, Lionel et Pascal, de 45 tours, et ils font beaucoup de DJ sets à deux.
On les a vus, oui. Ouais, Fred et moi, au Pyrénéon pour le Festival International du DJ. C'est la BD 2022.
Ouais. Ils sont venus régulièrement à Montpellier, au Dôme aussi.
Ils viennent à Montpellier, oui.
Et ils jouent des singles, mais sans concession. Il y a beaucoup de guitares, ça crache.
Ouais, mais de la bonne musique. Hein. Et juste avant les Liminianas et Pascal Comelade, on a écouté un Lily Drop. Hein.
Ouais,
on n'en a pas parlé de ça. Lily Drop, c'est un groupe des années 80 français méconnu.
Oui, j'en ai parlé un peu tout à l'heure. Oui, qui était de la même génération que Téléphone et très ami. Donc Olive était très ami avec Aubert. Et ce 45 tours, d'ailleurs, c'est marqué nulle part, mais était produit par Bertignac, en fait.
C'est, disons pas peu connu, mais oublié à l'époque quand même. Ça passait sur les ondes, on les entendait, les albums, on les voyait. Aujourd'hui, on ne les voit plus. Donc c'est une bonne nouvelle toutes ces rééditions. Mmh.
On va se jeter dessus.
Ce morceau sur ma mob passait carrément sur Europe 1, RTL et tout. C'était vraiment okay. Ce qu'on appelle un tube à la radio à l'époque. Quoi.
J'étais trop jeune pour écouter Europe 1. C'était sorti quand sur ma mob 84
79.
Ah, 79. Ah ouais.
Oui, donc il n'y avait pas de radio libre. Hein. C'est ça qu'il faut voir. Il y avait trois radios en France. Il y avait France Inter.
79. en même temps que Star Shooter.
Juste un petit peu après, c'était cette vague de téléphones, Star Shooter, bijoux, effectivement, ils étaient juste derrière. Ouais.
On va laisser la main à Fred, tu nous as ramené un peu le narrêve, je crois.
Oui, ben, pour faire sans prévoir, mais raccord avec les Liminianas, puisque c'est un titre qu'ils ont repris, qui s'appelle Time Will Tell, et donc Stan, tu me disais tout à l'heure que en micro...
C'est un des rares morceaux chantés en anglais par Paul Naref sur son premier album, et les paroles ont été écrites à Londres, puisqu'il enregistrait à Londres, par Keith Reid, qui est le parolier de Procol Harum, qui a écrit entre autres Whiter Shade of Pale, qui était un poète en fait. C'était un des rares exemples avec le Grateful Dead de groupe qui avait un parolier dans le groupe qui ne faisait que ça. Mais sur toutes les photos, il y a Keith Reid qui est présent, etc. Voilà. Et il est décédé il y a pas longtemps, il y a moins d'un an.
D'actualité, mais c'est un album pour moi que je connaissais pas du tout. Je connaissais quelques titres, bien sûr, qui étaient sortis en single. Je l'ai eu dans un lot d'échanges dernièrement à Marseille et je l'ai découvert hier matin et je me rends compte voilà qu'il y a des morceaux exceptionnels. C'est un très bel album. C'est son premier, 66 ou 67.
Il était enregistré à Londres. Il y a carrément Jimmy Page à la guitare. Enfin, ils sont tous là, quoi, comme à l'époque.
Un vieux tube à la radio, juste un peu de nostalgie, juste une envie de pleurer, allongé tout seul dans le noir, rêvant d'une année lumière. Le soir au fond de mon lit, le temps passé passe encore, une chanson triste avec des cœurs. Personne ne sait que je l'aime. C'est juste une envie de pleurer. Juste un vieux tube à la radio. Juste une envie de pleurer. On roulait tous les trois. La radio, toi et moi. Si près de toi quelques heures. Sans même oser toucher ton visage sur la vitre, ton visage sur la vitre. C'est juste une envie de pleurer, juste un vieux tube à la radio, juste une envie de pleurer. échapper sans espoir, juste histoire de lui faire peur, juste histoire de se faire croire qu'on pouvait faire autrement, qu'on était fait l'un pour l'autre, un souvenir pour plus tard, en promenant les enfants le dimanche au parc Monceau. On se revoit sans y penser, en racontant des histoires du temps où on s'amusait. On en oublie toujours une, c'est juste une envie de pleurer, juste un vieux tube à la radio, juste une envie de pleurer. Cherche tes yeux, je n'y vois rien de spécial. J'ai tout inventé, c'est sûr. J'ai même truqué les photos. J'étais seul dans la voiture, il n'y avait même pas la radio. Et quand il met cette chanson, qu'une larme coule sur ton visage, juste une envie de pleurer, juste un vieux tube à la radio, juste une envie de pleurer, juste un peu de nostalgie. Juste une envie de pleurer, juste un peu de nostalgie. De nostalgie.
Vous êtes toujours dans le club des chineurs sur Radio Pays d'Hérault et RPH Sud. Et on vient d'écouter un single sorti en 93 ou 94, juste un vieux tube à la radio. Tu nous avais caché ça. Enfin, ça moi, je le savais parce que j'avais lu ta bio, mais tu n'es pas seulement directeur d'une collection chez Gallimard ni journaliste. Tu as eu aussi une carrière de chanteur.
C'était ma vie d'avant, oui. C'était il y a longtemps. Et j'ai commencé par être musicien, puis chanteur, puis journaliste. La déchéance.
Dans cet ordre-là ?
Ouais, à peu près, ouais.
Le clavier est super, super bon, là.
Alors,
dans
c'était enregistré à Londres. C'était Richard Cottle, qui était un gars qui avait joué avec Bowie. C'était tous des musiciens fabuleux. Et alors, le lien avec le morceau d'avant qu'a passé Fred, Time Will Tell, de Paul Naref, c'est drôle. C'est que, sur ce morceau, Juste un vieux tube à la radio, il y a une pédale steel guitare, qui est jouée par BJ Cole, c'est le mec il est connu dans le monde entier pour la pédale steel guitare. Et il joue notamment la partie de Holidays, de Paul Naref. Voilà. Et en studio, j'ai commencé à le brancher là-dessus. Raconte-moi les séances avec Paul Naref, parce que moi, je suis un grand malade de Paul Naref. Et il y a le producteur qui a commencé à me dire si tu veux, on en parlera plus tard, quoi, parce que on n'est pas en studio pour raconter sa vie, quoi. Genre l'horloge tourne. Voilà.
Rien que ça, enregistré à Londres avec des super musiciens de studio. Merci Fnac Music, c'était ton label à l'époque.
C'était une super maison de disques, c'était Yves Bigot qui la dirigeait, donc le célèbre mec de radio et de télé et de plein de choses. C'est lui qui m'a signé, qui croyait en moi, c'était une super aventure. J'ai enregistré le disque à Londres, il est sorti, j'ai eu de la presse, c'était chouette et tout. Et 6 mois après, la Fnac a changé de propriétaire et ils ont mis la clé sous la porte en disant « qu'est-ce que c'est que cette branche qui perd de l'argent ?» Voilà. On a essayé de leur expliquer qu'une maison de 10, ça perdait de l'argent pendant 3-4 ans et ensuite ça en gagnait. Ils avaient signé Willy Deville, Nino Ferrer, Manu Dibango. C'était très très ambitieux.
Ah ouais.
Et tout ça pour rien, quoi. Ça a été un gros gros choc et très très déprimant pour pas mal de monde. Ouais. Et Marc Morgan qui s'en était bien sorti.
Non, Marc Morgan, non, mais peut-être Fred connaît.
Non, mais je connaissais très bien le label, puisque un des musiciens dont je m'occupais avait signé chez eux aussi, mais dans une branche plus hardcore metal, quoi.
Et moi, je connaissais la branche dance music, ouais. Division de Éric Morin et Laurent Garnier, mais ça, c'est une autre histoire.
Ben, encore à moi, parce que je reviendrai qu'en décembre, alors j'ai bien une fois sur deux. Alors, un disque que j'ai vraiment trouvé aussi récemment, vendredi à Avignon, à l'Hélicorne, pour ne pas le nommer. Donc c'est un disquaire qui fait aussi beaucoup de comics, qui est énormément connu pour les comics, la bande dessinée. Beaucoup des, il a acheté des collections énormes de trucs historiques et bien sûr très collector. Et là j'ai trouvé le pressage américain de radio, du premier album de Radio Birdman. Et du coup, je me rends compte qu'en fait, il y a 12 titres. Alors là, je pars un peu technique. Il y a 12 titres sur la version américaine, alors qu'il y a que 10 titres sur la version australienne, dont j'avais une réédition de 84 sur le label Trafalgar. Il n'y a pas les mêmes reprises, puisque là, il y a You're Gonna Miss Me de Rocky Erickson, donc du 13th Floor Elevators. Et sur l'autre, c'est plutôt TVI des Stooges. Donc, du coup, on se retrouve avec plein de titres. Bon, je les avais sur un CD, bien sûr, mais c'est pas la même version. La pochette, je la trouve mieux. Voilà, je redécouvre...
Et pour les auditeurs qui ne connaissent pas, tout comme moi, d'ailleurs, c'est quel style de musique?
C'est on va dire que c'est du, aujourd'hui, on classerait ça dans Garage Punk, mais c'est un groupe qui est très influencé par aussi bien les Stooges que les Doors, groupe australien avec Dennis Tech à la guitare et Rob Younger, Rocky Erickson, c'est plus, oui,
non, influencé
bien
par
sûr,
Rocky Erickson aussi.
Mais c'est un groupe australien, qui a marqué, qui est venu il y a pas si longtemps à la Secret Place à Montpellier, qui avait fait un concert mémorable, et c'est Rob Younger, le chanteur, qui a ensuite a fondé les New Christ, voilà, qui un groupe garage avec des influences psychédéliques, voilà, pour faire court.
Merci pour la découverte, on va écouter ça tout de suite.
Nobody of it is worth. Hey, hey, hey.
toujours dans le club des Chineurs. On vient d'écouter Jimi Hendrix, All Along the Watchtower. Tu nous racontais plein d'anecdotes, tu nous détaillais un peu tout ce que tu sais sur Jimi Hendrix. Ce serait trop long, il nous reste peu d'antennes, on va déjà reparler de ton bouquin qui vient de sortir, un pavé. Alors j'invite tous les amateurs de musique, tous les Chineurs, les collectionneurs de disques, et particulièrement ceux qui collectionnent Jimi Hendrix, à se pencher sur le bouquin de Stan Cuesta, parce que alors là c'est une bible quoi. À chaque fois il y a la pochette avec les crédits et puis une chronique de ta part.
Ouais, bien sûr, très subjectif, donc en général ça me vaut quelques inimitiés, mais j'aime bien.
Oui, j'ai vu ça, j'ai vu que c'est assez subjectif.
Oui, bien sûr, des disques dont je dis qu'ils sont mauvais. Je rappelle juste que le All Along the Watchtower, c'était un morceau composé par Dylan, qui était le héros de Hendrix en fait, qui adorait Bob Dylan, et ça fait le lien avec un des premiers morceaux que j'ai passé tout à l'heure.
Ouais. On peut aussi parler de ta collection Les Indociles, donc sur Wayback, qui appartient depuis quelques années à Gallimard.
Oui.
Il y a beaucoup d'artistes dont les biographies ont été réalisées par toi et d'autres auteurs, qui ne sont pas forcément d'ailleurs des auteurs de bouquins, qui sont des musiciens.
Non, j'ai fait exprès. L'idée de la collection, c'était d'aller demander à des gens dont ce n'est pas le métier d'écrire sur un artiste. C'est-à-dire, ce n'est pas des biographies intégrales, c'est des choses plutôt subjectives. Donc le premier, c'était Nicolas Comand, qui a écrit sur Jacques Higelin. Lui est photographe et musicien. Il vient de sortir un très bel album d'ailleurs qui s'appelle Blason, Nicolas Comand. Et il m'a fait un Higelin parce qu'il avait travaillé avec Higelin, il l'avait bien connu, il l'avait photographié, il avait travaillé sur ses textes. Donc il livre une vision personnelle de Higelin. Ensuite j'ai fait un Catherine Ringer, moi aussi, parce que je l'avais rencontré, etc. Dans l'ordre, il y a eu ensuite Jim Morrison, fait par Patrick Coutin, le chanteur, donc qui bien connu pour
un des rares bouquins que je n'ai pas lu sur Morrison et les Doors. Il faut que j'achète ce bouquin.
Il faut que tu lises, parce qu'il y a la vision d'un artiste sur un autre artiste, et en plus Coutin a vécu en Californie dans les années 70, donc vraiment il parle de quelque chose qu'il connaît bien. Il y a aussi le Janis Joplin de Nat Hiot, donc qui est notre poétesse locale dont nous sommes très fiers, mais nationale maintenant, qui a écrit sur Janis Joplin avec une vision à la fois de femme, de poète et de performeuse, ce qu'elle est. Et les deux derniers, c'était pour l'instant John Baez, que j'ai écrit moi-même, donc j'en parlais tout à l'heure, et Leonard Cohen par Pascal Boisiz, qui est lui-même chanteur et musicien et poète, puisqu'il est dans le groupe Feu Mendelssohn, et puis maintenant Bruit Noir, qui sort un nouvel album aussi. Voilà.
Que des artistes majeurs.
Ouais. Et à propos du Joplin de Nat Hiot, je voulais rajouter un truc, c'est que il va y avoir une rencontre, une signature bientôt pour mon Jimi Hendrix et le Janis Joplin de Nat Hiot, le jeudi 26 octobre à la Part de l'Ange à Narbonne, qui est un bar à vin littéraire très très chouette, tenu par des amis, et voilà, venez tous à Narbonne.
On essaiera d'être là.
Merci.
Merci à toi Stan. Pour finir Fred, toi qui cours toutes les bourses d'Occitanie, bourses au vinyle d'Occitanie, peux-tu nous en annoncer quelques-unes?
Il y en a pas mal dans les roues prochainement, donc le vinyle ne cesse de gagner du terrain, hein. Plus on en voit, plus on en achète, c'est contagieux, et donc dans les roues, là, sur le mois de novembre, il y a beaucoup de choses. Il y a Montpellier, donc à l'Altropisme, le dimanche 5 novembre, avec un concert d'un ancien chanteur des Burning Heads, Pete Sampras, et puis ensuite, c'est Pignan, donc en périphérie de Montpellier, le dimanche 12 novembre, et puis ça terminera à 7 le 19 novembre à la brasserie La Singulière pour la fameuse bourse au vinyle à la Sétoise
de la Migrègue, à la Rouille Sétoise,
et j'en organise une aussi prochainement à Alès, donc pour les fêtes de fin d'année, ça sera le samedi 9 décembre au Storia Jazz Club.
Super, plein d'occasions de chiner des vinyles. Merci encore Stan pour cette émission. On se voit peut-être à Narbonne la semaine prochaine, ou cette semaine, pardon, puisque l'émission sera diffusée le 23. Merci à toi Fred, et merci aux auditeurs. À bientôt, merci Axel à la réalisation.
Merci, bye bye.
Des Chineurs.